Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du jeudi 14 janvier. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce soir, je pense que ce sera une soirée de passion, j'en suis convaincu, parce que nous aurons deux sujets passionnants. Le premier étant justement hier cette défaite du Canadien en prolongation 5-4 face aux Leafs. On a eu le temps de prendre quelques appels après le match, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu regardé ça. Je ne sais pas si vous avez visionné à nouveau les images que j'ai fait moi aujourd'hui, parce qu'hier, je me suis dit, laisse les notes de côté. J'en ai pris quand même, mais laisse les notes de côté et regarde le match. Et c'est ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de revisionner tout ça, voir un peu comment ça s'est passé. On parlera de ça ce soir. Puis on se parlera de l'impact. Vous avez entendu tribune téléphonique tantôt avec Mario Landois. Et vous savez, depuis longtemps, on fait des tribunes au sujet de l'impact. Puis par moments, c'est plus difficile. Puis des fois, ce soir, ça a explosé. Donc, je suis convaincu que vous pourrez avoir l'opportunité, vous voulez avoir l'opportunité de vous prononcer sur ce changement de nom, ce nouveau logo. Puis j'ai lu les médias sociaux, j'ai vu la conférence de presse qu'on a faite. Je vais juste vous dire, moi, je ne peux pas critiquer la créativité. Il y a des gens qui sont créatifs, c'est leur travail dans la vie. Maintenant, eux sont convaincus que ça va fonctionner. Maintenant, vous, comment vous réagissez? Eh bien, ça sera notre deuxième volet de conversation ce soir à Bonsoir les sportifs. Je vous dis, on va prendre des appels aux alentours, là, 21h45, 45-50 aux alentours. Soyez patients, ce soir, je vous le dis, ça sera le maximum d'appels possibles. Et c'est le temps de réagir sur le Canadien, réagir sur l'impact. Puis ça fait longtemps que je vous dis qu'on est capable de faire des tribunes téléphoniques programme double, d'avoir deux sujets, mais ce soir, c'est ce qu'on va faire. Pour débuter, on va parler de hockey. Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin.
Bonsoir, Jérémy.
Bon, Martin, là, avant qu'on se parle du Canadien, avant qu'on se parle d'un paquet d'affaires, parle-moi du duel des Rangers face aux Islanders. C'est le premier match d'Alexis Lafrenière et pas facile pour les Rangers de New York, là.
Aïe, aïe, aïe. Écoute, vraiment, là, quand tu joues contre une équipe qui est dirigée par Barry Trotz et que tu leur donnes deux buts rapides, trois buts rapides, puis un quatrième but en deuxième période, quand normalement tu devrais peut-être essayer de te relever. Là, c'est bien difficile. Tu sais, les équipes de Barry Trotz, là, deux buts, c'est assez pour fermer ça, là, puis que ça devienne un peu lourd comme ambiance, ambiance de match de hockey, puis que ça devienne très défensif. Ben, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Quand même, Jérémy, on a pu remarquer Alexis Lafrenière deux, trois fois. Il a failli marquer à la fin de la deuxième période. Les Rangers ont placé une rondelle derrière le filet de Varlamov. Le rebond de la bande l'a ramené dans l'enclave et Alexis s'en allait au filet avec beaucoup de vitesse, puis lui a été capable de placer la rondelle vraiment là, près du poteau des buts, sur la jambière du gardien de but Varlamov qui a été alerte là-dessus, mais ça a passé proche. Tu sais, je te dis pas que ça aurait été un grand classique s'il avait marqué, là, mais au moins il y a eu une opportunité. Mais ça a été mince parce que écoute, les Rangers sont pas dans le coup, là. Le gardien de but Shesterkin, selon moi, là, à mon humble avis, a donné au moins deux cadeaux sur les quatre buts que les Islanders ont marqués.
Donc, les Islanders ont les devants 4-0 présentement face aux Rangers de New York après deux périodes de jeu. Et Lafrenière est copé d'une pénalité également, hein?
Oui, effectivement. Écoute, il joue pas un vilain match, là. C'est que son équipe est pas dans le coup. Puis, tu sais, il y a des joueurs chez les Rangers là qu'on ne voit pas actuellement. Là, Panarin a une soirée difficile. Le premier trio des Rangers ne produit pas énormément. Puis, comme je te disais, ben leur gardien de but a donné quelques cadeaux. Alors, quand ton gardien de but donne des cadeaux, là, c'est sûr que les épaules baissent au banc. Puis, les Islanders carburent à ça, là. Eux, ils prennent l'avance. Puis après ça, c'est le style Barry Trotz, très conservateur, très hermétique, systématique, puis ils vont jouer comme ça en troisième période. Là, je veux pas conjurer le sort pour Alexis, ni les Rangers, mais 4-0, là, les Islanders ont le potentiel d'emballer ça puis de ramener ça chez eux.
Bon, Martin, étant donné qu'on a lancé la saison hier et on a une multitude de matchs ce soir, laisse-moi donner un résultat. Je prends un résultat à hasard, exemple. Les Blue Jackets de Columbus ont les 1-0 face aux Predators de Nashville après une période de... Je sais pas pourquoi je te parle de Columbus. Pourquoi donc,
Martin? Je sais pas, hein? Écoute, Jérémy, ça devient une espèce de roman savon, cette histoire-là. Parce que On sait que les relations se sont considérablement amochées entre l'entraîneur Tortorella et le jeune Pierre-Luc Dubois pendant les séries. Pourtant, après ça, je pense que les deux avaient, en tout cas publiquement, semble-t-il fait la paix, mais c'est pas le cas. Puis les relations se sont compliquées avec la haute direction de l'équipe quand les deux parties ont commencé à négocier. Ça s'est terminé là, par un contrat signé à la sauvette avant le début du camp d'entraînement, un contrat de 2 ans à raison de 5 millions de dollars par année. Exactement le même contrat que Max Domi a signé d'ailleurs là, quand il s'est amené avec les Blue Jackets de Columbus. Et tout à coup, on entend que Dubois veut partir et que là, tout à coup, le Canadien et les Jets de Winnipeg puis quelques autres équipes s'informent. Alors là, jusque-là, ça se gère assez bien, cette affaire-là. Jusqu'à ce que hier soir, Torts, le seul et unique John Tortorella, donne une entrevue radio à une radio spécialisée sportive de Columbus avant le premier match qui a lieu ce soir contre Nashville, et il laisse tomber la phrase suivante. Il dit « Oui, Pierre-Luc, il veut partir. » Puis là, moi, ça commence à m'exaspérer un peu, ces affaires-là. Il va falloir qu'il pense à l'équipe et tout. Puis là, il ajoute dans la conversation que Pierre-Luc, en sentiment d'honnêteté envers ses coéquipiers, a dit au gars de l'équipe « J'ai demandé à être échangé. Mm-hmm. » Ça, là, normalement, là, la dernière fois que j'ai vérifié, là, c'est supposé de la régie interne. Si ça se sait, là, c'est parce qu'il y a eu du coulage et tout ça, mais là, c'est pas du coulage, là. C'est John Tortorella qui décide de le dire en plein, en direct, dans une radio, lors d'une entrevue. Alors, ce qu'il est en train de faire, le beau Tertz, c'est qu'il est en train d'isoler Pierre-Luc Dubois dans l'équipe, seul, dans son coin. C'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est très malsain, Jérémy, parce que ça met une pression indue sur Jarmo Kekäläinen, le directeur général. Mm-hmm. Là, tu sais, si Pierre-Luc était une distraction pour l'équipe il y a 5 jours, imagine-toi là, partout où cette équipe-là va présenté. C'est vrai que là, on va plus dans les vestiaires. Là. Ce sont des opportunités médias Zoom, là. Mais quand même, partout où les Jackets vont aller, là, tant que la transaction ne sera pas faite, là, ça va parler que de ça. Là.
Écoute, je vais te raconter une histoire. Ça roule présentement sur les réseaux sociaux. Je l'ai partagé sur mon compte Twitter. Je salue Bruno Monpetit de RDS, un chic type avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Et oui. Aujourd'hui, il y a eu un point de presse d'avant-match et Pierre-Luc Dubois était là, répondait aux questions en anglais. Et là, il y a quelqu'un qui a décidé d'isoler une portion de la conférence de presse où ce qu'on dit comme texte, c'est Pierre-Luc semblait pas nécessairement enclin à répondre aux questions des journalistes, même semblait un peu agacé jusqu'au moment où il y a eu un journaliste francophone qui s'est amené. Et là, ce qu'on voit dans l'image, c'est quand Bruno Monpetit d'RDS arrive dans le point de presse puis lui parle en français, le visage de plomb qu'on voyait de Pierre-Luc Dubois s'est estompé pour un large sourire. Et là, il parle en français, puis là, Bruno lui dit, tu sais, avec tout ce qui se dit présentement, puis tu le vois, puis il sourit, puis il tente de contenir son sourire, tu sais. Puis là, on conclut le message sur Twitter en disant, je pense que le gars a le goût d'aller jouer chez eux. C'est ce qu'on conclut dans le message. En tout cas, on sentait que il sait que ça fait parler présentement. Là. Il est convaincu qu'on jase à Columbus et on en jase ici de Pierre-Luc Dubois.
C'est sûr. Et tu sais, Jérémy, évidemment, les Québécois là, qui évoluent à travers la Ligue nationale puis un peu partout, là, ceux qui coachent, ceux qui patinent, ceux qui gardent les buts, là, tu sais, ils vont dire qu'ils se tiennent pas au courant, mais c'est pas vrai. Ils se tiennent au courant de ce qui se passe au Québec, puis quand ils n'ont pas le temps de se tenir au courant, ils n'entendent parler par leur famille, par leurs amis ou par d'autres Québécois avec qui ils patinent ou avec qui ils jouent. Alors, c'est sûr que Pierre-Luc a entendu parler qu'à Montréal, on a dit « Hein, quoi? Oui, ben oui, Marc Bergevin s'est informé. Ah oui, OK, bon. » C'est sûr qu'il en a entendu parler. Puis là, il est dans un environnement hostile au moment où on se parle. Tu sais, je pense que les coéquipiers sont capables de faire la part des choses. Malheureusement, à Columbus, sont habitués à ça, là. Ils ont passé une année complète avec Panarin et Bobrovsky, alors qu'on savait très bien que les deux voulaient partir. Là, maintenant, c'est Dubois. Mais moi, j'ai l'impression, dans ce dossier-là, Jérémy, que la sauce a été davantage gâtée par John Tortorella. Vraiment, là, je comprends pas pourquoi il est allé là hier. Je comprends pas. Si ce n'est que de vouloir isoler Pierre-Luc Dubois.
Il a dit parce que si il a dit, je veux juste rajouter quelque chose, il a dit dans cette dans cette conversation parlant de l'intensité qu'il a eu avec Pierre-Luc Dubois, il a dit, tu sais, il y a des joueurs qui sont pas capables de prendre ça. Fait que donc il supposait que Dubois n'était pas capable de prendre la conversation intense qu'ils ont eue. Tu sais, s'il vous plaît là, tu sais,
je t'annonce là, on va faire un exercice là. Demain, samedi soir, là, lors du match face aux Oilers d'Edmonton, là, si Dave Tippett se met à engueuler Connor McDavid sur le banc, alors qu'il y a à peu près 75 caméras qui prennent des images pendant Hockey Night in Canada, là, la partie qui est présentée d'un océan à l'autre ici au pays, là, je t'annonce qu'il va avoir un problème avec Connor McDavid. Puis je t'annonce que le directeur général va dire à son coach, mais qu'est-ce que t'es allé faire là?
Ben non, mais souviens-toi Pierre Pagé avec...
Sundin et Pagé, c'est
ben
le classique.
Oui.
Là.
Ben oui.
Tu sais, le dossier fini par se régler par une transaction, puis ça va finir comme ça. Mais je me répète peut-être, là, mais John Tortorella a commis une erreur stratégique importante qui va faire en sorte que les Blue Jackets n'auront peut-être pas le maximum pour Pierre-Luc. Parce qu'actuellement, là, ils le mettent sur le marché. Puis là, c'est sûr qu'ils attendent que ça morde à Montréal. C'est un Québécois. Puis évidemment, on en a parlé une couple de fois jusqu'à maintenant, là, le Canadien aurait des cartes pour conclure une transaction avec les Blue Jackets. Ils ont des jeunes. Ils ont un jeune joueur de centre qui peut être intéressant. Ils ont de jeunes prospects américains. Tu sais, ils ont des cartes pour faire la transaction. Alors, pendant que Kokalainen s'amuse peut-être, là, s'amuse, je le mets entre guillemets, là, à faire un peu grimper les enchères puis d'avoir le meilleur deal possible, son coach s'en va dire une affaire de même. Il s'en va sortir quelque chose qui est de la régie interne, lui-même. Il n'y a même pas eu de fuite, là. Alors, ce qu'il fait, c'est que là, il place davantage de pression sur Kokalainen. Puis Kokalainen, lui, c'est une saison de 56 matchs, Jérémy. Il veut que son équipe la commence bien, la saison. Alors là, tu amènes une distraction comme ça, puis de la pression. Ça veut dire que les équipes qui s'intéressent à Dubois, là, ils vont rappeler Kokalainen. Mais vu les circonstances, ils vont attendre que Kokalainen fasse le premier pas.
Mm-hmm.
Parce qu'ils vont savoir que là, actuellement, la situation est pas mal plus urgente que ça l'était mardi avant que Tortorella ouvre sa trappe.
Moi, là, je veux dire, là, je regarde présentement la feuille de match entre Columbus et Nashville. C'est sensiblement la même chose, là. 7 minutes 13 de jeu,
ouais.
De présence. Tu sais, il n'y a pas de lance au filet, par contre, mais tu sais, on sent pas que Tortorella ne l'utilise pas. Il l'utilise normalement. C'est ce qu'on peut voir dans les chiffres. Là, j'ai pas le match sous les yeux. Mais clairement, il aide pas son DG. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, je l'ai dit hier après le match entre le Canadien et les Leafs, je me rétracte. Non, je n'échangerai pas Nick Suzuki pour Pierre-Luc Dubois. Quel match de Suzuki
non,
hier?
Non, fais pas ça.
À quel
fais
match
pas ça.
Non, mais pendant le match, là, j'ai envoyé un texto à Benoît Brunet parce qu'on a fait une table ronde avec Bruno Gervais et Benoît, Mario Landois, puis j'ai dit, tu sais, regarde, quand l'opportunité passe, faut-il aller chercher un gars comme Pierre-Luc Dubois, puis c'est Suzuki, il faut y aller, c'est Kotkaniemi, il faut y aller, puis là, ben finalement, après le match, je fais, non, j'ai rien dit, recule la cassette, j'ai rien dit, je veux pas faire ça. C'est incroyable.
Non, la vraie affaire pour le Canadien, Jérémy, ce serait d'avoir Suzuki et Dubois dans la même équipe.
Ben oui, clairement.
Là, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être fait. En tout cas, on verra bien, mais il y a une chose qui est sûre, là, ce que Tortorella a fait, ça a placé, le dossier a pris une autre dimension. Parce que c'est sûr là, que Pierre-Luc Dubois, lui, il parle à ses coéquipiers, il a l'honnêteté de s'ouvrir à ses coéquipiers, puis son coach s'en va étaler ça sur la place publique. Tu sais, c'est parfait pour la station de radio qui a accueilli la déclaration, là, comprenez-moi bien, là. Tu sais, il l'a dit. Mais pour l'esprit d'équipe puis pour ce que ça peut créer à l'intérieur de son vestiaire, c'était pas tellement brillant. Tu sais, puis plutôt aujourd'hui, tu sais, Tortorella, Il y avait une relation privilégiée avec Brad Richards il y a plusieurs années. Brad Richards le suivait à vie à mort, même si Tortorella était pas évident. Puis, à la fin de la carrière de Richards, Tortorella avait convaincu Brad de signer avec les Rangers comme joueur autonome. Mm-hmm. Puis, comment tu penses que ça s'est passé entre les deux joueurs, entre les deux bonhommes? C'est encore de la vaisselle cassée avec notre ami Tortorella. Alors, un de ses plus grands alliés a fini par lui tourner le dos, Brad Richards.
Ben écoute, il aide pas son DG. Et sais-tu quoi? Si j'étais Marc Bergevin, je les laisserais mariner tranquillement, pas vite, dans la boîte et attendant de voir des demandes peut-être un peu moins audacieuses de la part du DG de Columbus.
Tu sais, quand on a célébré, célébré c'est un grand mot, mais quand on a souligné l'anniversaire de la transaction Patrick Roy, là, il y a de ça quelques semaines,
oui.
On se disait quelques années plus tard, quel tort que ça a fait à l'organisation du Canadien, parce que c'est un problème qu'on aurait dû prendre le temps de le régler, fermer les portes, s'assurer que les personnes concernées puissent se parler, essayer de trouver un terrain d'entente, puis si c'était pas possible, au moins devant les médias, acheter une certaine paix. Puis pendant ce temps-là, tranquillement, pas vite, Régent Houle, en directeur général qui est à ses affaires, commence à faire le tour de la Ligue, parle à ses homologues, puis là, tout à coup, les semaines avancent, puis on se retrouve après les fêtes. Là, il y a des équipes qui sentent qu'ils ont une chance de gagner la Coupe. Oups! Le coup de téléphone que Régent Houle aurait pu avoir et la valeur optimale de Patrick Roy serait peut-être tombée à ce moment-là ou même après la saison. Mais là, les Jackets ont l'air à faire la même erreur avec Pierre-Luc Dubois à cause de leur entraîneur. Tu sais, parce que si publiquement on avait acheté une certaine paix dans ce dossier-là, là, que le coach en avait pas remis une couche avant-hier soir, là, ben, tu sais... Peut-être que ce se serait estompé un petit peu cette tempête-là et que Pierre-Luc aurait eu un début de saison puis que là, après, ben on s'assoit puis on regarde. De toute façon, Pierre-Luc, là, il n'y a pas d'autre option. S'il veut gagner sa vie, faut qu'il aille jouer pour les Blue Jackets de Columbus. C'est pas lui qui détient les cordeaux de son avenir dans ses mains. Alors, il n'y avait rien qui pressait, mais là, ça commence à presser un peu plus parce que ça va empoisonner un peu l'atmosphère dans l'équipe de Columbus.
Bon, Martin, revenons rapidement, le temps file, mais revenons sur cette défaite du Canadien hier en prolongation. Si tu avais à faire un mini bulletin de ce que tu as vu dans le match d'hier, comment tu dresserais le portrait de ce premier duel pour le Canadien?
Le portrait global pour l'équipe globale, là, je pense qu'on a vu un Canadien qui sera dynamique cette année. Je pense que c'est clair, là, les nouvelles acquisitions ont vraiment porté leurs fruits immédiatement. Anderson avec sa contribution directe avec le duo Drouin et Suzuki, on a vu que ça pourrait cliquer potentiellement. Ce sont trois gars différents, mais réunis ensemble, ça a l'air à faire vraiment une très bonne combinaison. On a été enchanté par Romanov. Ben Chiarot a un peu repris là où il a laissé. Puis là, je parle pas de la bagarre, mais là, il est encore le défenseur qui fait payer le prix aux attaquants adverses, puis en même temps, il fait une bonne job défensive. Je pense que l'avantage numérique du Canadien a parti du bon pied hier. La première unité est très solide. La deuxième unité a eu des chances également. Tu sais, on a vu de très bonnes choses. Et ce qu'on a vu qui a causé la perte du Canadien, ce sont des affaires qui s'ajustent, Jérémy. Tu sais, un peu plus de discipline, un peu plus de concentration et tout ça, des petits ajustements en désavantage numérique, ça, c'est pas majeur. Alors, tu sais, on se retrouve pas là au lendemain d'un match d'ouverture où on aurait perdu par une marge de 4 buts, où tout ce que Claude Julien aurait concocté comme trio aurait plus ou moins marché. On a eu encore une excellente performance du gardien Price malgré les 5 buts qu'il a accordés. Là, je pense pas qu'on peut identifier des faiblesses vraiment de ce côté-là après le match d'hier. Honnêtement, ils s'en vont. Ils sont allés, ils ont voyagé aujourd'hui vers Edmonton. Mm-hmm. Ils ne se sont pas entraînés. Ils vont s'entraîner demain. Mais tu sais, c'est pas des ajustements majeurs. Puis l'affaire, moi, qui m'enchante chez le Canadien, c'est que l'équipe est à l'ouvrage, Jérémy. Ils ont l'air vraiment dédiés à la cause. Tout le monde a l'air à travailler. Puis c'est une équipe dynamique. Et ça, c'est réconfortant. Puis c'est rassurant.
Bon, mais c'est rassurant, mais surtout, ça rend ce match 1 sur 56 intéressant, mais derrière nous. Le prochain match, samedi. Ah. Et là, la compétition sera intéressante du côté d'Edmonton.
Écoute, si tu donnes des avantages numériques aux Oilers d'Edmonton, là, c'est sûr que ça va faire mal. Ça va faire autant mal que ça fait mal hier à Toronto, parce que le duo Draisaitl et McDavid sont les deux joueurs les plus prolifiques de la Ligue nationale en avantages numériques. S'il y a une qualité que cette équipe des Oilers a, c'est bel et bien leur puissance en avantages numériques avec ces deux-là. À 5 contre 5, ils peuvent marquer des buts. On sait que McDavid et Draisaitl jouent bien habituellement contre le Canadien. Leur problème, les Oilers, là, il est derrière. Il est à la défense et devant le filet. D'ailleurs, aujourd'hui, là, il y a de ça quelques minutes à peine, là, ils ont pris le gardien qu'ils avaient sur le Taxi Squad, le jeune Skinner, et ils l'ont activé dans la formation. Alors, bon, est-ce que Mike Smith démontre déjà des signes de faiblesse alors qu'il n'a pas joué un match?
Non, c'est l'autre gardien. J'ai vu, c'était pour des raisons familiales, urgence familiale.
Ben, tant mieux. Tant mieux. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle en soi pour les Oilers, là. Mais tout ça pour dire, Jérémy, que la force, la faiblesse à exploiter face aux Oilers samedi soir, c'est la défense et leur gardien. Alors, le Canadien doit absolument s'appliquer à travailler, à mettre de la pression sur la défensive, puis bien sûr, par définition, après sur le gardien. Là, puis c'est comme ça qu'ils vont réussir à battre les Oilers. Mais c'est pas fait parce que, historiquement, à Edmonton, le Canadien, là, que ce soit dans l'ancienne aréna ou le nouvel aréna, ça n'a pas été une histoire de succès. On verra bien si les nouveaux venus vont changer le sort.
Est-ce que vous revenez à vos bonnes habitudes de 60 minutes d'avant-match le samedi?
Écoute, au moment où on se parle, on fait un avant-match de 30 minutes.
OK, parfait.
Alors, j'ai pas eu d'avis différent. Bon,
j'ai rien dit, Martin. Voilà, ce soit 30 minutes de bord, mais ceci étant dit, on vous écoute.
Quoique, si on nous demandait de faire 30 minutes de plus, on accepterait.
Ben, vous avez du contenu en masse, j'en suis convaincu.
Mais pour l'instant, c'est 30 minutes.
Bon, parfait. Martin McGuire, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Bonne soirée, Jérémy.
Merci, au revoir. Martin McGuire qui revenait sur cette défaite du Canadien hier 5-4 en prolongation face aux Leafs de Toronto. On s'arrête quelques instants. Retour au résumé complet de ce qui se passe présentement dans le monde du sport.